Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur Carac.
Genève, ville de culture.
Le musée d'art et d'histoire de Genève est en pleine mue. Une version agrandie et restaurée du bâtiment ouvrira à l'horizon 2030. Au-delà d'un chantier physique, c'est son identité qui est repensée. Les façons d'explorer une exposition évoluent. Elles sont plurielles, d'ailleurs il existe autant de visites différentes que de personnes qui s'intéressent aux œuvres. L'institution s'ouvre sur la ville et collabore avec d'autres établissements culturels de la région, comme par exemple le Grand Théâtre. Ce dernier fait justement face à peu près aux mêmes problématiques que le MH, celle de se réinventer, de se dépoussiérer, de décloisonner les genres et de toucher de nouveaux publics. Quels opéras verrons-nous demain ? Quel musée visiterons-nous dans le futur ? Ce sont des questions que nous allons aborder avec deux directeurs, celui du musée d'art et d'histoire Marc-Olivier Valère et celui du Grand Théâtre de Genève, Aviel Kahn. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivés la même année à la tête de vos établissements respectifs, en 2019. Quelle a été votre première action en faveur de la modernité ? Par quoi avez-vous commencé, Aviel Kahn ?
Bon, moi, j'ai commencé avec une œuvre complètement inédite en Suisse, en tout cas à cette époque. C'était Einstein on the Beach de Philip Glass. Philip Glass, c'est un compositeur qui a écrit beaucoup d'opéras, mais qui est en même temps très populaire dans les genres de la musique électronique, répétitif. Il a inspiré les discothèques des années 70, 70, 80. Voilà, c'était un spectacle avec, en plus, Daniele Finzi-Pasca qui venait de faire la fête de Vigneron à Vevey. Donc, c'était, disons, quelque chose de complètement, je pense, inattendu. Et comme les vieux abonnés du Grand Théâtre ont dit, décoiffante à l'époque.
Et de votre côté, Marc-Olivier Valère ?
Alors, je suis arrivé 3 mois avant le Covid. Le temps de monter la première expo et qui... une expo qui peut ouvrir au public. On était déjà en 2021, janvier 2021. C'était la première carte blanche de la série, en fait, avec Lena Jakob Knebel, une artiste autrichienne à qui on a donné une carte blanche pour vraiment s'immerger dans les 800 000 objets de notre collection. Et elle a sorti une exposition également, je pense, décoiffante. On voyait des canovas dans les salles de douche, des natures mortes de Baudelaire dans les cuisines. Enfin, c'est vraiment une réflexion sur l'objet ordinaire et l'objet esthétique, l'œuvre d'art. Quelles sont les différences ? Étant entendu que notre collection, ce qui est intéressant, c'est qu'on a autant des œuvres d'art que d'objets à valeur d'usage, je dirais, comme les pièces de monnaie, les arts appliqués, une partie de l'archéologie, l'horlogerie, etc. Et c'est une exposition qui a eu énormément de, je dirais, presque une polémique, on peut dire. Hein, ça a choqué quand même pas mal de gens. Et depuis, on continue sur ces cartes blanches. Je pense que maintenant, les gens commencent à s'habituer un peu à ce style.
Il y a quelques années, la moyenne d'âge des visiteurs et visiteuses du MH était de 60-65 ans. Elle est passée aujourd'hui à 25-30 ans. C'est l'une de vos grandes fiertés. Comment êtes-vous parvenu à ce résultat ?
Alors, beaucoup de choses, beaucoup de projets. Évidemment, la nature même des expositions, ça c'est certain. On a revu aussi l'architecture, redonné, je dirais, toute la richesse et la pertinence à l'architecture de Camoletti, hein, l'architecte qui a construit le musée en 1910, ça c'est une chose. Dans les projets de médiation, enfin, c'est un ensemble, je dirais, aussi par rapport à la manière de visiter le musée, mais aussi la manière d'entrer dans le musée. Ça, c'est extrêmement important. Un musée tel que le nôtre, et la plupart des musées d'ailleurs, sont assez autoritaires, donc un peu intimidants. Le fait, par exemple, de pouvoir donner ce qu'on veut comme entrée, c'est-à-dire on paye ce qu'on veut, ça a énormément de succès. On fait plus d'argent d'ailleurs qu'avec une billetterie normale. 80% des gens ne payent pas, ce qui veut dire aussi beaucoup de jeunes viennent. Ils ont beaucoup moins d'argent et on leur dit, mais ils nous disent oui, mais moi je sais pas s'il faut que je donne quelque chose, je ne sais pas si je vais aimer. Mmh. Alors on dit bien oui, allez-y, visitez et puis revenez nous voir. Et bizarrement, enfin de manière assez extraordinaire, la moitié des gens, le 20% donc qui payent, reviennent à la fin de l'exposition pour dire ah, moi j'ai adoré, je vais vous soutenir, je vais donner quelque chose, etc.
Et donc ils font preuve d'une grande générosité.
Donc ils font preuve d'une grande générosité. Et puis aussi, ça permet à des gens de venir pour autre chose qu'une visite complète. Peut-être les gens tombent amoureux alors, d'un tableau ou d'une personne dans la salle, hein, ça c'est à voir. Mais en tout cas, des fois, reviennent juste pour une chose ou juste pour une expérience qui n'est peut-être pas liée forcément à celle qu'on attend dans un musée.
À Vielken, vous avez constaté que les Genevoises et Genevois, en comparaison avec d'autres villes européennes, font plus volontiers une sortie au restaurant qu'au théâtre. Comment vous y prenez-vous pour changer ces habitudes ?
Bon, moi j'avais l'impression, et je l'ai toujours un peu, que la culture à Genève, elle est bienvenue, mais elle est aléatoire. Elle n'est pas une nécessité, quand même, pour la population, hein, je dis. Et donc c'est important de faire partir avec ce qu'on fait d'une vie qui n'est pas que la sortie pour le spectacle lyrique ou pour la soirée de danse, mais de vivre le grand théâtre, que ça fait partie de la vie aussi, disons, sociétale.
Oui,
et donc, on a commencé à ouvrir le bâtiment parce que, par exemple, en différence du musée d'art et d'histoire qui peut être ouvert tous les jours et vous pouvez visiter les tableaux, nous sommes souvent fermés. Mmh. Enfermés parce qu'on n'a pas les spectacles tous les jours, parce qu'on répète quand on prépare le prochain spectacle. Donc, il y a beaucoup de jours que, disons, la grande salle ne joue pas. Et donc, dans le passé, la maison était simplement fermé. Et là, nous avons commencé à animer, à faire toute une programmation qu'on appelle la plage. Et on a ouvert même un restaurant, un grand théâtre, qui n'existait pas pour un centenaire, parce que ça existait à l'époque, en 1905.
On a trouvé des anciennes photographies. L'idée que propose Marc-Olivier Valère d'être là par hasard et puis finalement de rester dans le bâtiment.
Oui, pour devenir pour d'autres raisons, disons-le. Pas
exactement.
Nécessairement par hasard. On fait des late night et fêtes late night jusqu'à 3h du matin.
On va en parler en détail.
On fait beaucoup de manifestations. Vous pouvez faire le brunch le dimanche au Grand Théâtre. Donc ça veut dire, vous pouvez accéder à ce bâtiment. Ce que tu disais aussi, comment entrer parce que ces vieux bâtiments, ils peuvent faire peur.
Absolument. Donc, démocratiser tout ça. On va se pencher sur la programmation de la plage plus en détail. Mais pas tout de suite. D'abord, on fait une courte pause. Le temps d'écouter un peu de musique et une minute d'aïe-d'aïe.